Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. J'ai intitulé mon message ce soir « Au-delà de nos limites ». Au-delà de nos limites. Nous allons voir au travers de cette histoire combien l'Évangile est capable de nous amener au-delà de nos limites. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Il est question de Jésus qui est en train d'enseigner et un miracle va se produire, un paralytique va marcher suite au pardon de ses péchés et à sa rencontre personnelle avec Jésus. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus dans les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui qui profère les blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Amen. Ce Dieu de grâce, c'est le Dieu qui est capable d'étendre nos limites. Il est capable de produire et d'accomplir des miracles, des guérisons physiques, des délivrances. Il est capable aussi de pardonner les péchés. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais nous avons besoin de mettre notre foi en action pour être en contact avec ce Dieu et expérimenter ce que Dieu met à notre disposition ce soir. Dans tous les meetings que nous organisons, nous voulons stimuler, optimiser, maximiser la foi de ceux qui nous écoutent, afin qu'ils s'emparent des plus merveilleuses promesses de Dieu. Il y a quelques temps, j'étais dans le nord de l'Europe, en Lettonie, je prêchais dans la capitale, à Riga, et au cours de la soirée, Dieu s'est manifesté, le Saint-Esprit a œuvré de telle manière que plusieurs personnes ont expérimenté des miracles. Un homme qui avait été victime d'un grave accident était venu ce soir-là. Il marchait depuis plusieurs mois avec des béquilles. Alors il s'est avancé à l'appel, je me suis approché de lui et j'ai dit à cet homme, au nom de Jésus maintenant, prenez vos béquilles, dressez-les en l'air et marchez. Et l'homme a commencé à saisir ses béquilles. Il les a levées en l'air et il a marché devant toute la foule. Il avançait tenant ses béquilles. La foule s'est levée, les gens ont commencé à applaudir, à célébrer Dieu, à acclamer Dieu. C'est extraordinaire, non ? Quand il a reposé ses béquilles, il s'est appuyé sur les béquilles et il continuait à boiter. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors je regarde cet homme, je dis, au nom de Jésus, levez vos béquilles et marchez. Et l'homme lève ses béquilles une nouvelle fois, il me regarde bien droit dans les yeux, il obéit à l'ordre que je lui donne, et il avance et il marche normalement, et les gens applaudissent une nouvelle fois. Mais lorsqu'il repose ses béquilles, l'homme est tout tremblant, et il boite à nouveau. Soudain, le Saint-Esprit m'a montré quel était le problème de cet homme. Il recevait la guérison divine par la foi d'un autre, mais non pas à cause de sa foi. Et le Seigneur voulait que cet homme reçoive son miracle parce qu'il devait mettre lui-même sa propre foi en action. Alors je me suis approché de lui, j'ai commencé à parler avec lui, et je lui dis, monsieur, que se passe-t-il? Je ne comprends pas à quoi vous êtes en train de jouer ce soir. Que se passe-t-il? Pourquoi? Lorsque je vous ordonne de marcher, vous êtes capable de marcher en soutenant vos béquilles en l'air. Et lorsque je cesse d'encourager, de stimuler votre foi, vous reposez vos béquilles et à nouveau vous êtes infirme. Et il me regarde, il me dit, oui, mais monsieur l'évangéliste, après la réunion, demain, ma guérison sera-t-elle encore là? Je lui dis, monsieur, la guérison ne peut pas se recevoir par procuration. Vous avez besoin de mettre votre foi vous-même en action. Tant que vous vivez dépendant de la foi des autres, vous passez à côté de ce que Dieu veut vous donner à vous personnellement. Ce soir, nous sommes là pour stimuler, encourager, dynamiser, maximiser, optimiser votre foi. Mais vous devez vous-même maintenant décider de dire, je vais moi-même mettre ma propre foi dans le Seigneur, expérimenter mon miracle ce soir et recevoir mon plus grand miracle, celui du pardon de mes péchés, de la purification de mon cœur. Alléluia. Ça, c'est le plus grand des miracles. Gloire à Dieu. La foi, nous dit la Bible, c'est une ferme assurance. Dans Hébreux chapitre 11, il déclare, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration. Et je suis allé m'aventurer dans une autre version de la Bible, qui est la version d'Arbi, où là j'ai vu que la foi est une substance. Et j'ai recherché dans d'autres livres, et j'ai vu que la foi, la substance, c'est une matière. Une substance, c'est un élément. Le fond, la base, la matière, l'essence, le corps. Ce qui signifie que la foi n'est surtout pas quelque chose de virtuel. Ce n'est pas une vapeur. La foi, c'est spirituel. Et bien que la foi soit spirituelle, la foi, c'est quelque chose de très solide. Amen. C'est pourquoi si je m'appuie par la foi sur la parole de Dieu, alors mes fondations sont comme le roc, parce que je m'appuie sur la personne même de Jésus-Christ. Un revivaliste, Jean Troy, a déclaré, « La foi, c'est l'anticipation confiante des choses qu'on espère, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. La foi va changer votre univers intérieur, et la foi va vous permettre de changer même l'univers des autres. » Dieu soit loué. L'homme de foi, l'évangéliste Wigglesworth, déclarait, « Je ne suis pas là pour vous distraire, mais je suis là pour vous emmener dans un endroit où vous pourrez vous moquer de l'impossible. Ça, c'est la foi. Si vous recevez la parole de Jésus-Christ, cette parole de foi ce soir, la foi va jaillir. Une foi maximisée. Et alors, vous pourrez regarder l'impossible en face et vous le trouverez ridicule et vous commencerez à croire que tout est possible et vous pourrez entrer ainsi dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Alléluia. Des œuvres de gloire, des œuvres de bénédiction, des œuvres qui l'honorent et le glorifient. Amen. La foi nous propulse dans l'univers de l'impossible. Premier point ce soir, Dieu veut manifester sa puissance par des miracles ici. Est-ce que le peuple de Dieu le croit? Amen. Dieu veut manifester sa puissance dans cet endroit par des miracles. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Je ne crois pas que les miracles sont réservés uniquement aux pays comme les pays d'Amérique latine, de l'Asie ou de l'Afrique. Les miracles ne sont pas réservés au tiers-monde parce que Jésus, le Seigneur des miracles, n'est pas simplement le Seigneur des miracles dans les pays du tiers-monde, mais même en France, il demeure 24 heures sur 24 le Seigneur des miracles parce que c'est sa nature de faire des miracles. C'est bien plus que son code génétique. Jésus peut faire des miracles ce soir, et je l'affirme dans cet endroit, Jésus peut faire des miracles parce que le verset 17 de la Bible déclare « La puissance du Seigneur se manifestait par des miracles ». La puissance du Seigneur se manifestait par des miracles. Quand Dieu manifeste sa puissance, il fait donc des miracles. Amen. On est d'accord? C'est ce que la Bible affirme. Alors, voulons nous appuyer sur cette déclaration, le Seigneur manifestait sa puissance par des miracles. Demandez à Dieu avec moi, faites cette prière. Seigneur, un peu plus de fois, Seigneur, manifeste ta puissance. Amen. En déclarant ça, nous sommes en train de dire, tu vas faire donc des miracles. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, moi j'ajoute, partout. Donc comment enseigner votre mot ce soir? Il est le même ici, dans votre ville, dans cet endroit, c'est le même Jésus que nous servons et que nous proclamons. La proclamation de Jésus était une proclamation hyper dynamique. Il parlait, mais le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, en discours, mais la Bible dit que le royaume de Dieu consiste en puissance. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile, il disait qu'il prêchait cet évangile et que cet évangile était accompagné d'une démonstration d'esprit et de puissance afin que la foi de ses auditeurs ne soit pas basée, ne soit pas fondée sur une sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Je crois que ce soir, il y aura de toute évidence des miracles de guérison intérieure, de guérison physique, des esprits libérés, mais aussi des péchés pardonnés. Toute la dimension du surnaturel est à notre disposition ce soir parce que le Seigneur manifeste sa puissance par des miracles. Je vais vous emmener quelques instants en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Togo. C'est en 1998. C'était mon premier contact avec l'Afrique. Nous étions dans le nord du pays, dans la ville d'Atakpamé, une ville animiste et fétichiste. Et le premier soir de la campagne, lorsque je suis arrivé sur l'estrade, il y avait une ambiance extraordinaire dans le stade. Il y avait plus de 22 000 personnes qui étaient rassemblées. C'est une atmosphère de fête comme les Africains savent la faire. Ça dansait, il y avait des réjouissances, les gens sautaient, les gens se réjouissaient. C'est une ambiance merveilleuse. Et alors que j'étais sur l'estrade, je regarde l'auditoire, c'était une marée humaine en face de moi, c'était quelque chose d'assez nouveau. Et je voyais ces gens qui se réjouissaient devant Dieu, et les gens sifflaient dans le stade. Alors je dis au coordinateur, « Wow, quelle ambiance ici !» Je dis, les gens dansent, les gens sautent, les gens se réjouissent, et même ils sifflent. Et lorsque j'ai dit, les gens sifflent, il m'a regardé droit dans les yeux, et comme les Africains savent le faire quand ils éclatent de rire, il a commencé à rire en face de moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai un problème? Ou j'ai dit une bêtise? Puis mes frères, qu'est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous dérange? Il me dit, non frère Alexandre, on voit que vous ne connaissez pas du tout l'Afrique. Je dis, mais pourquoi? Je dis, tout à l'heure, extraordinaire, les gens dansent, les gens sautent en l'air, se réjouissent, même ils sifflent. Il me dit, oui, ceux qui citent, vous ne savez pas qui sont ces gens. Je dis, non, mais dites-moi, qui sont ces gens alors? Est-ce que ce ne sont pas les gens des églises? Il me dit, non, 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 ce sont tous les sorciers de la région. Ils sont venus pour vous accueillir et ils sifflent parce qu'ils appellent les mauvais esprits afin qu'ils viennent contre vous pour que vous ne soyez plus capables de prêcher l'évangile. J'ai dit, waouh, quelle ambiance! Et il m'a laissé la place au pupitre. Et j'ai dit, maintenant, c'est la guerre. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai pris la Bible, je me suis avancé en direction de la foule. Et j'ai dit, maintenant, sorciers, au nom de Jésus de Nazareth, je vous ordonne de vous taire. Sortez d'ici, démons. Et quand j'ai proclamé cette parole, ça leur a coupé le sifflet au nom de Jésus. Les gens sont tombés dans la foule, et les conseillers ont vu les esprits qui sortaient en criant. Et soudain, une femme a crié, je vois, je vois. Une aveugle a recouvré la vue. Et une avalanche de miracles a visité cette ville d'Atakpamé. Nous avons vécu une semaine extraordinaire. Nous étions comme portés dans les nues. Nous étions comme au ciel. Chaque soir, les gens rendaient témoignages. Des gens sont venus de plus de 500 km avec des taxis de brousse. Ils ont fait des jours et des jours de voyage pour venir écouter l'évangile. Nous avons dû réquisitionner des écoles pour que les familles puissent dormir. Même le soir, les gens dormaient sur le stade. Ils attendaient le soir la proclamation de l'évangile pour recevoir leur guérison divine. Même 15 jours après la campagne d'évangélisation, le coordinateur me disait que dans les villages, des démons sortaient encore des possédés. Et lorsque je suis allé à l'aéroport, c'était la fin de cette campagne d'évangélisation. Nous avions retransmis une partie des soirées sur la télévision nationale. J'étais dans l'aéroport avec mes valises, et dans les valises, il y avait toute une série de vidéos. C'était un peu la mémoire de cette campagne d'évangélisation. Les douaniers commencent à ouvrir mes bagages, ils sortent mes vêtements, et puis là, ils sortent une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Ils sortent ça, ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous quelque chose à déclarer? Pourquoi j'avais dit ça à un évangéliste? Dans l'aéroport, j'ai commencé au secteur, j'ai dit oui, j'ai quelque chose à déclarer. Jésus sort, Jésus guérit, Jésus libère. Il revient bientôt, c'est lui le sauveur du monde. Et le douanier me regarde avec des yeux grands comme ça. Et ses collègues arrivent sur les côtés et ils commencent à m'entourer. Et il y en a qui disent, mais qui c'est ce homme-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi tout cela? Et puis un grand douanier arrive et il pousse tous ses collègues. Il dit, oh, poussez-vous d'ici les gars. Vous ne connaissez pas cet homme-là? C'est l'évangéliste Franck Alexandre. Cette semaine, il est passé sur la télévision nationale. Il a prêché à Tacpamé. Dans sa campagne, il y a eu des guérisons. Et il dit, je sais en qui il croit parce que moi aussi je crois dans son Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je suis chrétien comme lui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Nous avons quelque chose à déclarer. Nous avons quelque chose à déclarer. Alléluia. Le Seigneur manifeste sa puissance par des miracles. Deuxième point, vous avez besoin d'un miracle fait maison. Verset 18, ils l'ont descendu, le paralytique, ils l'ont descendu sous les regards de Jésus. Il fallait un miracle fait maison. Il fallait un miracle sur mesure, fabriqué par le Seigneur lui-même. Non pas un miracle avec ambiguïté, non pas un miracle tiré par les cheveux, non pas une sorte de miracle, mais un vrai miracle de Dieu. Nous croyons au miracle authentique et nous croyons que quand Dieu fait un miracle, c'est vraiment réel. Dieu ne fait pas des miracles à moitié, il fait des miracles entiers, des miracles totales. Ce que Dieu fait, c'est vraiment total. Ce que Dieu veut faire dans votre vie, c'est une œuvre extraordinaire, une œuvre entière. Un miracle made in royaume de Dieu. Amen. Un miracle qui vient... Made in heaven, un miracle qui vient du ciel, un miracle qui vient d'en haut, un attouchement divin. Ils l'ont placé sous les regards de Jésus. Il fallait que Jésus pose ses yeux sur ce paralytique pour que Jésus fasse lui-même le miracle. Je bénis Dieu quand je suis le spectateur de ce que Jésus fait. Je me souviens d'une campagne d'évangélisation dans l'océan Indien, c'était dans une île qui s'appelle l'île Maurice. Il y avait un grand congrès, il y avait plus de 2000 leaders qui étaient assemblés. J'étais en train d'enseigner les leaders, j'avais parlé sur la repentance, l'importance pour les leaders de s'humilier devant Dieu, de se réconcilier entre eux. Et on avait rompu les rangs à la fin de la prédication, les pasteurs pleuraient dans les bras les uns des autres, certains étaient dans les allées en train de confesser des péchés, les 2000 étaient là en larmes, il y avait un mouvement d'esprit. J'étais à genoux sur l'estrade en train de pleurer, et à la fin de la réunion, une dame est arrivée, dans un état de délabrement moral, physique, spirituel, cette femme était condamnée. Elle avait entendu qu'un évangéliste prêchait dans cette église, et elle pensait que c'était une réunion d'évangélisation. Et ce matin-là, quand elle est arrivée, elle est entrée dans l'église en retard. Elle est arrivée à la fin. Et quand elle est entrée, elle pensait se diriger vers le devant de l'estrade, mais c'était clairsemé, parsemé de pasteurs à genoux en train de pleurer. Elle ne pouvait pas du tout avancer, alors elle est restée à l'extérieur et elle voyait l'évangéliste au loin sur l'estrade en train de prier à genoux. Alors elle s'est dit, mais il n'y a pas d'appel à la guérison, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Elle ne connaissait pas ces choses-là. Elle venait pour être guérie de sa maladie, alors elle s'est assise au dernier rang, puis elle a commencé à regarder autour d'elle et elle voyait que les gens continuaient à se repentir, à s'humilier devant Dieu. Et puis tout à coup, il y a eu comme un esprit de repentance qui l'a visité et elle a dit, mais je vais faire comme eux, je vais pas perdre mon temps, je vais mettre à genoux. Alors elle a glissé du banc, elle s'est mise sur ses genoux et puis là, elle a commencé à prier Dieu, elle a commencé à confesser ses péchés. Quelques minutes plus tard, elle ressent deux mains sur sa tête et elle se dit, enfin l'évangéliste est là. Enfin l'évangéliste a vu ma misère, enfin l'évangéliste est en train de prier pour moi. Alors elle lève les yeux pour me regarder, mais elle regarde, il n'y avait personne. J'étais toujours au loin sur l'estrade. Et là elle réalise que ces deux mains qui sont sur sa tête, ce ne sont pas les mains d'un homme. Ce sont des mains qui sont là, invisibles, mais elle sort, elle est touchée par quelque chose d'invisible. Et quand elle se relève, elle est en pleine santé. Un an après, je retourne dans l'océan Indien, cette femme vient me serrer la main. Et elle me dit, je dois vous raconter ce témoignage, vous l'ignorez complètement, mais il y a quelques mois, vous étiez à l'île Maurice, et j'ai été guéri dans ce rassemblement. Vous n'êtes même pas au courant, c'est Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Je suis spectateur de ce que Jésus fait. Amen. C'est Jésus qui le fait. Cette femme qui vient à l'hôtel, un soir, elle est dans sa chaise roulante, et sa fille est en train de pousser la chaise roulante, et puis il frappe à la porte de ma chambre, et quand j'ouvre, la jeune femme me dit, s'il vous plaît, priez pour ma maman, elle est infirme, priez pour elle afin qu'elle soit guérie. Et vous savez, je n'aime pas que l'on nous confonde avec des guérisseurs. Alors je dis à la demoiselle, je crois que vous, Je ne voudrais pas vous décevoir. Je vais prier pour votre maman parce que mon ministère consiste à prier pour les gens qui souffrent. Mais je dois vous dire quelque chose. Maintenant, je vous dis quelque chose de la part de Dieu. Votre maman est dans cette chaise roulante. Demain, il y a une réunion au stade national. Vous allez venir avec votre maman dans sa chaise roulante. Et demain, au stade, votre mère sortira de sa chaise roulante et elle marchera. Je vais prier pour vous. Mais il n'y aura pas de miracle aujourd'hui. Parce que votre mère doit entendre l'évangile demain. Elle doit se convertir à Jésus. Et ensuite, Jésus la guérira. Je peux vous dire qu'une parole comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est vraiment sorti de ma bouche. Et après, quand j'ai fini de la dire, j'ai dit, « Oh Seigneur, vraiment accomplis-le, que ça vienne de toi, vraiment. » Le lendemain, j'étais au stade. Les gens répondaient. Il y avait plus de 20 000 personnes dans le stade de Rosil. Les gens avançaient, donnaient leur cœur à Jésus. J'aperçois la jeune femme qui pousse sa maman dans la chaise roulante. Et la maman qui est à l'appel et qui répète la prière de repentance, elle demande pardon à Dieu pour ses péchés. Et puis, j'avais oublié la conversation de la veille, j'étais concentré sur l'organisation de la réunion, sur un moment de prière où je priais pour tous les gens. Et le moment où il faut prier pour les malades est arrivé. Et je priais, je proclamais les paroles de foi, quand soudain mon doigt se pose sur la femme et je dis maintenant au nom de Jésus, sortez de votre chaise roulante! Et la dame se dresse dans le stade. Elle sort de sa chaise roulante, devant toute la foule. Vous pouvez pas imaginer. Ce qui s'est passé, c'était l'hystérie collective. Les gens poussaient des hurlements, ils acclamaient Dieu. Jésus venait d'accomplir un miracle. La dame est montée jusque sur l'estrade et nous brandissions la chaise roulante en guise de trophée. Alléluia! Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Mais vous avez besoin d'un miracle fait maison, réalisé par Jésus lui-même. Amen. Troisième point. Votre foi doit être prête à arracher le toit. Ok? Ouh. Combien de tuiles, pasteur? Tout dépend de votre foi. Certains vont tenter d'arracher quelques centimètres carrés. D'autres vont faire un mètre carré. Vous allez arracher le toit à la mesure de votre foi. Et je vous invite à ne pas être trop poli avec la foi. Mettez-la en action, elle aime qu'on lui rentre dedans la foi. La foi, elle aime qu'on la secoue. La foi, elle aime être active. La foi, c'est comme un athlète. La foi, c'est comme un champion. Elle coopère avec vous grâce à la parole de Dieu. Amen. Vous arrachez le toit, ni plus ni moins, faites pas de formule de politesse. Pas de protocole. Ils ont vu la foule, ils ont vu les obstacles. Ok, il y a la foule, il y a les obstacles, on a besoin d'un miracle. Le seul qui puisse le faire, c'est Jésus. Tout le monde est devant la porte, il y a les murs. Eh bien, il n'y a pas de problème, on va prendre l'escalier extérieur, on va monter sur le toit, eh bien, il n'y a plus d'autre solution, allez, on y va, c'est un cas de force majeure. On arrache le toit. Alléluia. Moi, j'aime ça. Je sais pas si vous aimez un évangile comme ça, mais ça, c'est un évangile de bénédiction. Ils ont arraché le toit. Tu peux étirer ta foi. Amen. Tu peux étirer ta foi. Tu peux étendre tes limites, contourner les obstacles. Franchir les barrières. Défoncer les murailles. Alléluia. Ça, c'est la foi. La foi, elle explose les obstacles. La foi ne se croise pas les bras. Elle ne fait pas de la politesse religieuse. Oh, notre bon Père Céleste, si tu pouvais faire quelque chose pour nous ce soir, si tu es bien disposé dans ta gloire, ne voudrais-tu pas déposer ton sceptre quelques instants pour nous faire quelques faveurs? Tiens, 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 tiens. La foi, c'est l'action. Amen. Ils ont arraché le toit. J'étais en Espagne il y a quelques années. Je prêchais dans un square, dans une petite ville. Quelques centaines de personnes écoutaient. Et à la fin, les gens sont avancés. Je suis descendu pour prier pour eux. Et là, des parents en larmes me présentent leur petite fille. Ils me disent, nous cherchons un prédicateur parce qu'on nous a dit que les prédicateurs prient pour les malades et qu'il y aurait des guérisons. Nous sommes allés voir des sorciers, des voyants, des gourous, nous sommes allés voir des magiciens pour la santé de notre fille. Elle est malade depuis la naissance. Nous avons essayé de trouver la médecine, n'arrive pas à la guérir. Alors nous sommes allés chez tous ces gens-là parce qu'on nous avait dit qu'ils avaient du pouvoir, mais depuis que nous sommes allés les voir, la situation n'a fait que s'aggraver. Alors nous voudrions arrêter d'aller voir les sorciers et nous voulons tenter l'évangile. Écoutez, nous allons prier pour vous, messieurs-dames, nous allons prier pour votre petite fille, et puis que Dieu pose sa main, qu'il fasse quelque chose en sa faveur. Alors j'ai prié pour les gens, j'ai mis ma main sur la petite fille, demandant au Seigneur de la guérir. Mes parents me disaient, elle est possédée. Elle a des crises de démence. La nuit, elle pousse des hurlements. Je prie pour cet enfant. Je m'attendais à voir une manifestation démoniaque. Rien ne s'est passé. Rien. Le pic total. Rien. Je suis remonté sur l'estrade, j'ai continué la réunion. Je regarde vers la gauche, quand soudain la petite fille me regarde, elle me fait. Je descends une nouvelle fois, je m'approche d'elle, et la fille me regarde, elle prend ma main, elle se la met sur sa tête, et alors qu'elle prend ma main, elle se la met sur sa tête, elle dit, au nom de Jésus! Et là, boum, la gamine tombe par terre, et les esprits sortent en poussant de grands cris. Et ce jour-là, elle a été guérie. Amen. Parce qu'elle a arraché le doigt elle-même. La foi, c'est l'action. On arrache le doigt. On n'est pas en train d'enlever les tuiles une par une. Non, on fait de la casse. On casse, on arrache. On agit, on bouge. On ne fait pas de politesse. On vient pour le Seigneur de gloire. On n'insulte pas Dieu. Vous savez que la foi, c'est un compliment qu'on fait à Dieu. Puisque la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Alors lorsqu'on commence à venir vers le Seigneur avec cette sorte de politesse religieuse, qu'on s'approche de lui, qu'on n'ose pas, on a une sorte de retenue, de timidité, le Seigneur s'il dit, mais vas-tu avoir la foi? Mais vas-tu avoir la foi? Rends-moi gloire, honore-moi, et confiance en moi. Amen. Ils ont arraché le doigt. Et lorsque le Seigneur a vu cela, il a commencé à proclamer sa parole. Voyant leur foi, Jésus a déclaré tes péchés sont pardonnés. Quatrième point, visez la foi, mais visez une foi d'excellence. Tes péchés sont pardonnés. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles n'ont jamais sauvé personne. Les miracles sont des manifestations de la grâce, des bénédictions, des actes d'amour qui viennent de Dieu. Dieu qui nous fait du bien, qui fait un miracle. Pour nous, c'est compliqué de recevoir un miracle. Pour le Seigneur, il n'y a rien de plus facile que de le faire. Il est tout puissant. Nous nous faisons des pieds et des mains pour essayer d'obtenir un miracle alors que le Seigneur, il peut le faire en un instant. Il est capable de faire une œuvre glorieuse. Pour nous, c'est extraordinaire. Pour lui, c'est ordinaire. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Vous êtes là ce soir, il peut nous guérir tous en un instant, tous. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est nous amener sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la réconciliation. J'ai vu une dame, il y a quelques années à Troyes, elle est entrée dans notre assemblée, elle est entrée avec des béquilles, elle avait eu un accident quand elle avait l'âge de 8 ans, son ménisque et son genou avaient été broyés dans cet accident, et cette femme avait la trentaine d'années, elle marchait avec ses béquilles, nous avons prié pour elle, au nom de Jésus, et la puissance de Dieu a touché ses jambes, elle était comme électrifiée, elle courait dans l'assemblée, elle était complètement libérée, elle secouait ses béquilles, elle a commencé même à les jeter dans l'église, guérie par le Seigneur. Mais vous savez quoi? Elle ne s'est pas convertie. Elle n'est jamais revenue. Et un jour, je l'ai croisée dans la ville de Troyes. J'ai reconnu cette dame et je lui ai dit, madame, mais je vous reconnais. C'est vous qui est venue dans notre assemblée, qui était un. Elle a dit, oui, je me souviens, vous avez prié pour moi, j'ai été guérie, regardez. Elle fait ça dans le lieu, regardez, je suis en pleine santé. Et vos péchés? Oh, mais vous savez, tout ça, je n'en ai pas besoin. Maintenant, j'ai trouvé ce que j'avais besoin. J'étais guéri physiquement, mais je n'ai pas besoin de la religion. Cette femme est guérie, mais sa guérison ne l'enverra pas au ciel. Mais le jour du jugement, il lui sera reproché d'avoir méprisé la grâce. Alors ce soir, comprenez bien, il veut bénir votre corps, bénir votre intérieur, bénir votre âme, bénir votre esprit. Il veut vous pardonner, il veut vous purifier. Les miracles sont temporels, le salut est éternel. Mais recherchez le plus grand miracle. Celui du salut de votre âme. Au Togo, dans cette campagne dont je vous parlais tout à l'heure, une femme connue de toute la ville, qui était possédée depuis 10 ans, s'est avancée pour la première fois. Lorsqu'elle était en proie à la démence, elle tombait par terre, elle restait inconsciente pendant plusieurs heures. Des fois même, les membres de sa famille nous ont dit qu'elle pouvait rester plusieurs jours inconsciente lorsqu'elle était en crise démoniaque. Et ce soir-là, elle s'est avancée. Elle a donné son cœur à Jésus. Elle avait tout essayé, tous les sorciers, Elle avait essayé tous les trapis, toutes les incantations pour sortir de ce problème de possession, mais rien n'y faisait. Alors elle a tenté l'évangile. Et ce soir-là, elle a compris que le plus important pour elle, ce n'était pas d'être guérie ou même d'être délivrée des démons, mais c'était de faire la paix avec Dieu. Alors elle s'est avancée au premier appel que j'ai lancé. Comme je le ferai dans quelques instants, je vous invite à donner votre vie à Jésus premièrement. Après, nous prierons pour les malades. Alors la dame s'est avancée. Et là, elle a répété la prière de repentance, elle a commencé à confesser ses péchés. Et au moment où elle demande pardon à Dieu pour ses péchés, là, la puissance de Dieu est tombée sur elle. Et elle raconte, lorsque le démon s'emparait d'elle, c'était comme un serpent qui circulait dans son corps et qui se logeait dans son système nerveux. Et alors qu'elle est tombée par terre, lorsque Dieu l'a visitée, là, elle a raconté publiquement ce qui s'est produit. Elle a dit, je confesse la prière de repentance, et alors que je demande pardon à Dieu pour mes péchés, soudain les esprits se manifestent en moi, ils me jettent à terre. Et là, j'ai une vision, je vois une main qui est percée. Cette main entre en moi, elle saisit le serpent. Elle jette le serpent au loin, et cette main proclame, dans mes meurtrissures, tu es guéri. Elle était guérie en un instant, au cours de cette soirée, guérie. Après avoir été pardonné. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus a pardonné ses péchés avant de le guérir. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Ensuite, il veut guérir, bénir notre corps, nous donner une bonne santé, mais avant tout, il veut purifier notre cœur de tout péché. Et mon cinquième point sera celui-ci. Un survivant vient de se lever. Cet homme, miraculé, reçois ce commandement de Jésus qui lui dit maintenant, tu prends ton lit. Tu rentres chez toi, tu vas dans ta maison. Et cet homme prend son lit, il a roulé son lit, ce lit sur lequel il était couché depuis des années. Un lit d'impossibilité, un lit d'infirmité, un lit de rejet, un lit de souffrance, un lit d'abandon, un lit de solitude. En un instant, il l'a roulé, il l'a pris sous le bras, il est rentré chez lui. En un instant, il est sorti. De cette vie où il mordait la poussière, il a pu lever la tête haute, il a retrouvé dignité, honneur, excellence et gloire. Il est rentré chez lui, un homme survivant, un homme miraculé, rentré à la maison, et toute sa famille a pu découvrir ce miracle extraordinaire. Un homme nouveau venait de se lever. Son lit qui incarne la défaite était une fois pour toutes roulé, lié. De la même manière, ce soir, dans cet endroit, parce que vous invitez Jésus dans votre vie, votre lit de malédiction, votre lit de péché, votre lit de souffrance, votre lit de solitude, votre lit de misère, vous pourrez le lier au nom de Jésus, le mettre sous votre bras et prendre autorité sur cela et vivre une vie nouvelle. Ce n'est plus cet homme qui dépendait de son lit, mais à partir de ce jour, c'est le lit qui dépendait de cet homme. Alléluia! Et c'est totalement différent. Je vis dans une autorité que seul Jésus peut me donner. Je vis avec le Christ et j'entre dans une nouvelle destinée. Cet homme qui vivait à terre, lorsque les gens passaient près de lui, il faisait voler la poussière et cet homme était plein de poussière. Cet homme a secoué la poussière, il s'est levé et pour lui, une vie nouvelle a commencé. Il a commencé à fouler un chemin nouveau vers une glorieuse et éternelle destinée. Et c'est pour vous ce soir.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.